important, mais c'est parce que c'est sans doute l'affaire la plus importante de l'ufologie. Alors, on rappelle très, très brièvement les faits. À partir de 89, il y a une vague d'ovnis ahurissantes sur la Belgique et il y a des milliers et des milliers de témoignages qui se multiplient, qui ne sont pas faits par les simples témoins, qui sont faits aussi bien par des gendarmes, etc. On voit des triangles qui surveillent le ciel. Et j'apprends par la presse que 15 jours avant Pâques, c'était donc en 90, donc ça devait être au début du mois de mars 90, l'armée belge décide de faire une gigantesque chasse à l'OVNI. C'est quand même sidérant. C'est-à-dire que l'armée met à la disposition d'une petite association ufologique belge qui s'appelle la SOVEPS, une petite association qui travaille quand même très sérieusement et très intelligemment, mais met à leur disposition un bombardier avec un matos très sophistiqué de caméras infrarouges, etc., et fait un gigantesque appel à témoins pour tout le territoire. Et au retour de ce week-end pascal de chasse à l'OVNI, résultat, niette, bredouille. L'OVNI n'était pas au rendez-vous. Tout ça, je trouve ça excessivement bizarre, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Bon, ben les Belges, très bien. Et puis, je reçois un coup de fil de mon ami Jean-Pierre Petit, qui me dit, écoutez, Marie-Thérèse, il se passe quand même des choses bizarres en Belgique. Vous devriez essayer d'aller voir ce qui se passe auprès de l'armée. Je dis, vous savez, l'armée, hein, c'est la grande muette, l'armée ne dira rien. Essayez. Presque sûr que je n'aurai aucun résultat, je prends, c'était ma grande technique quand je veux toujours travailler sur des sujets dont j'étais pas sûr mais que je tenais à faire, je prends un congé sans solde match et je vais donc en Belgique. J'avais au préalable demandé un entretien avec le colonel de Brouwer, qui est devenu général depuis, qui dirigeait les forces aériennes belges, parce qu'il est exclu de pouvoir s'entretenir en tant que journaliste avec un militaire sans qu'il ait l'aval du ministère des Armées. Ma grande stupeur, j'ai l'aval du ministère des Armées qui accepte de me recevoir. Et donc, arrivant au QG des forces armées belges, j'avais amené non pas un photographe de match, parce que je ne voulais pas avoir de fuite, puis je me suis dit, si j'ai rien, je ne veux pas être ridiculisé. J'avais amené mon filleul, qui est photographe, et que j'aime beaucoup, Christian. Je lui ai dit, écoute, tu viens avec moi, on ne sait jamais, j'aurais peut-être besoin d'un photographe. Et nous arrivons au QG. Et là, je suis reçu par le plus délicieux des êtres, le général de Brouwer, qui est vraiment, moi j'aime bien dire, c'est une figure du cinéma. C'est tout à fait comme on imaginerait un major de l'air des armées américaines, le regard bleu d'acier. Il est peut-être un peu plus petit que ne serait un officier américain, mais avec un charme, une courtoisie, etc. Et il commence à me raconter quelque chose dont je ne me doutais absolument pas, parce que je lui ai dit en termes plus polis, mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris de déclencher cette chasse à l'OVNI avec un bombardier. Et il me dit, mais écoutez, voilà ce qui nous est arrivé. Le 30, moi, j'étais au QG de l'armée belge le 22 juin 90. Il me dit, voilà ce qui est arrivé. Dans la nuit du 30 mars, nous avons eu pléiade, comme d'habitude, de témoignages ovnis qui nous venaient non seulement de privés, de militaires. Il y a tout un long rapport très circonstancié d'un gendarme qui s'appelait M. Pinson, mais ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'est que ces ovnis étaient captés par nos radars. Le radar de Glon, qui est au sud-est de Bruxelles, le radar de Semerzec. Ces radars ont une portée à peu près de 300 km, hein. Le territoire belge est quand même pas très grand. Et le radar de défense de l'Europe. Alors évidemment, très prudent, parce que chez les militaires, on n'est quand même pas des affolés de la soucoupe volante. On fait toutes les vérifications possibles pour savoir si ce ne sont pas des erreurs dues à une aversion météo. Enfin, je vous la passe pour ne pas vous en parler pendant 1000 ans. Et quand on s'aperçoit que non, il y a bel et bien un objet qui survole le territoire belge, Brouwer donne l'ordre à deux F-16 de décoller pour poursuivre l'OVNI. Il faut savoir que, n'est-ce pas, tous les territoires ont des pilotes de chasse qui sont en stand-by 24 heures sur 24 au cas où il se passe quelque chose. J'aime autant vous dire que ces pilotes sont sélectionnés, ce sont des militaires, parce qu'ils ont un psychisme costaud, solide, ils ne vont pas s'affoler. D'habitude, ces pilotes sont merde, comme des rats morts, parce que qu'est-ce qu'ils ont à faire comme mission, une mission de routine, parce que un avion sort d'un corridor aérien, il y a un petit trafiquant de drogue, etc. Là, j'aime bien vous dire qu'un pilote militaire à qui on dit, ben, vous allez essayer de nous suivre, d'intercepter un OVNI, ils sont excessivement motivés. Et nous avons donc là deux pilotes qui décollent avec leur F-16. Alors, il faut savoir, n'est-ce pas, que ces F-16 sont dotés de missiles autodirecteurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont
verrouillé la cible,
c'est ça, fait le lock-on sur leur cible, même si l'objet ciblé s'échappe, il suffit de déclencher le missile, où que ce soit l'objet, le missile va le rattraper. C'est quand même, nous vivons une époque complètement grisante. Alors, les missiles décollent, à l'époque...
Non, les missiles
les deux F-16 décollent, et à l'époque, à ce moment-là, l'objet volait à une vitesse, je dirais presque de tondeuse à gazon du LM, 50 km/h. Ce qui est nettement pas assez rapide pour un F-16. Vous savez qu'un F-16, il n'a pas une certaine vitesse.
Il décroche.
Mais l'objet a la gentillesse d'accélérer pour que les deux F-16 puissent les suivre. Et ce qui est formidable, c'est que non seulement les pilotes voient le F-16 sur leur radar, mais ils le voient avec les yeux, et que vous avez les témoins au sol qui voient l'OVNI avec les F-16 qu'ils poursuivent. Et là, on assiste à quelque chose qui est sans précédent dans la chasse à l'OVNI, c'est-à-dire que les F-16, l'OVNI va passer à une vitesse de 280 km/h, ok. Mais il va passer de 3000 mètres d'altitude à 1700 mètres d'altitude. Et il va passer à une vitesse de 1800 km/h en moins de 2 secondes, ce qui correspond à une accélération de 40 g. On considère qu'un pilote humain, par définition, ne supporte que 8 g. Si l'accélération est trop forte, vous avez la cage thoracique complètement enfoncée,
le voile noir,
les yeux qui sortent de la tête, etc. Et l'OVNI passe à... On ne tire pas sur un OVNI. Bon. L'OVNI leur échappe, ralentit, est rattrapé, etc. Bon. Et quand le colonel de Brouwer me dit ça, il me dit, est-ce que ça vous intéresse de regarder la boîte noire? Ah, je lui dis, écoutez, moi, ça m'intéresse d'autant plus que moi, je suis pilote privé, mais enfin, je n'ai pas l'habitude d'une boîte noire de F-16, mais je veux bien, et je fais évidemment signe à mon filleul, je dis, viens, on ne sait jamais. Et j'ai la chance d'assister, et ça, les Belges ne l'ont jamais pardonné, pour la première fois, quelqu'un d'autre que l'armée voyait la boîte noire et le moment pile de l'interception de l'OVNI par les F-16. Photos que, évidemment, mon fils a prises, qui ont été publiées dans le monde entier, et ça a fait un véritable drame, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'arrive avec ce scoop qui est une vraie bombe dans ma poche, pour la première fois l'armée parle, et je vais voir le directeur de match, et je lui dis, écoutez, moi j'ai un bébé extravagant à vous filer. Et Roger Théron, qui est mort récemment, me dit, mais c'est vrai, c'est une véritable bombe. Personne au journal ne doit le savoir. Alors ça, c'est une petite parenthèse pour les lecteurs qui ne se doutent absolument pas comment ça se passe dans l'univers de la presse. Il faut faire très attention parce qu'un papier ne passe pas directement de l'ordinateur de celui qui l'écrit. En plus, à l'époque, à Mac, j'étais la seule à avoir un ordinateur. Tout le monde me disait, mais tu es une folle, les ordinateurs, ça ne marcherait pas. Tu aimes les gadgets, etc. On a vu ce que c'est devenu. Il fallait passer par le secrétariat de réaction. Et il y avait toujours des gens qui pouvaient passer dans le secrétariat de réaction, lire un papier et téléphoner à un journal et vendre l'information avant. Donc, Roger Théron me dit, pas question que qui que ce soit le sache. Il fait venir quelqu'un de spécial et le journal est entièrement modifié, parce que ça fait 4 pages, et la couverture, sans que personne, pas même le rédacteur en chef du journal, ne le sache. C'était le secret total. Lorsque le journal sort, évidemment, le rédacteur en chef n'est pas très content, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Bon, ça ne me regardait pas. La presse belge fait un truc énorme. Nous avons enfin l'explication de cette chasse à l'OVNI, etc. Et c'est un journal français, Paris Match, qui le sort et pas nous. Les Belges me l'ont si peu pardonné que dans les 2 énormes livres qu'a sorti la SOBEP sur l'affaire belge, ils ne m'ont jamais mentionné. Je suis devenue la journaliste. Ça, ils ne m'ont jamais pardonné. Mais c'est quand même très important parce que c'est la première fois que l'armée a vraiment caché le morceau. Et je m'en suis ouvert au général de Waller. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous m'avez parlé? Et cet homme m'a touché par sa sincérité. Il m'a dit, mais écoutez, est-ce que vous imaginez une chose pareille? Un petit territoire, comme la Belgique, survolé par des engins qui visiblement ne relèvent pas de notre technologie. Aucun des appareils, même les prototypes les plus extravagants, on avait envisagé à un moment, que ce soit l'F-117, l'avion furtif, etc., n'est capable de ces performances, de voler aussi lentement, de passer ces accélérations fantastiques, de tourner à angle droit, de tourner à angle aigu, etc. Qu'est-ce que nous pouvons faire devant si nous sommes menacés par quelque chose? Il faut qu'il y ait une prise de conscience internationale pour que nous ayons les moyens, eh bien, d'enquêter sur le sujet, de prendre les moyens. Or, il se trouve de nous défendre ou de développer d'autres choses. Or, il se trouve que je me suis renseignée sur vous, vous n'avez jamais bidonné l'information, vous n'avez jamais cherché le sensationnalisme, vous êtes toujours très clean, etc. Et quand même, Match est le plus grand tirage francophone et a une audience mondiale, à cause d'édition internationale. Donc, vous étiez bienvenu quand vous m'avez appelé, c'est pour ça que je vous ai parlé.
Et il n'a pas été rétrogradé. Lui, il a été
promu... Il est devenu général.
Bonsoir à tous. Ce pourrait être le titre de l'émission. Bonsoir à tous, c'est Didier Deplinge à la production et réalisation de cette émission. Et nous allons retrouver Jean-Pierre Petit pour, courageusement, vaillamment, une partie de la nuit. S'il est en ligne, bonsoir Jean-Pierre Petit.
Bonsoir.
De nouvelles lettres ouvertes ont été publiées sur le site jp-petit.com. Ont-elles donné des résultats de votre côté?
Ben, disons, on se pose des questions. Moi, j'ai fait, alors, au point de vue de la manifestation des destinataires, néant, complètement néant.
Voilà, de mon côté aussi, j'ai appelé tout le monde, tous ceux qui étaient destinataires de l'un de ces courriers. Mm-hmm. Personne ne répond, l'un n'ayant pas d'avis à donner, l'autre étant trop pris. Le troisième est en déplacement, le quatrième n'est pas joignable. Quant à la présidence de la République, le major L nous dit qu'elle a le courrier entre les mains mais n'arrive pas à le communiquer à monsieur P, commissaire de la marine, chargé de donner une réponse. Donc toutes ces personnes ont des raisons diverses pour ne pas répondre à ces lettres ouvertes.
Mm-hmm. Bah, moi ça m'étonne pas quoi. Enfin, c'était une chose qu'il fallait faire, hein, parce que on en parlera ce soir. Hein, je crois qu'il y avait le public devait être informé de